Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti! Aujourd'hui, pour le 48e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Bloch, président fondateur de Business & Co. et fondateur des événements Les Big Boss. Bonjour Hervé.
Bonjour Marc.
Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer toutes les casquettes que tu as au sein de ton entreprise ?
Alors, j'ai 47 ans, j'ai deux enfants, donc j'ai créé le groupe Business & Co. Il y a maintenant 12 ans, au départ sur une marque phare qui s'appelle les Big Boss, une marque événementielle. En 2019, on a un fonds d'investissement qui est rentré au capital, en l'occurrence Montefiore Investment, et autour de la galaxie EDG, European Digital Group, et donc le groupe Business & Co. est une des briques, est une des branches d'EDG. Alors aujourd'hui, on a aussi beaucoup grandi, on a fait de la croissance externe, on a pris une participation majoritaire, puis racheté 100% du capital de la société Proximum 365, qui est à la fois un organisateur d'événements dans le domaine industriel, spatial, R&D, innovation, et une techno qui permet de digitaliser des événements one-to-one et d'animer des communautés B2B. Et puis on s'est aussi rapproché quelques mois d'une société qui fait de la performance commerciale qui s'appelle Pitch Planet et qui permet en fait d'augmenter la performance de nos clients. Donc tout ça est un écosystème très orienté business, d'où le renaming du groupe autour de Business & Co. Et notre cœur est de favoriser le business, le retour sur investissement de nos clients qui eux-mêmes sont dans une démarche B2B.
Ok. Donc, si je comprends bien, c'est de l'événementiel toujours autour, on va dire, du métier commercial, du business commercial.
Alors oui, en fait, nous, on adresse plusieurs fonctions et plusieurs secteurs. Si je prends Proximum 365, c'est plutôt des secteurs d'activité, donc le spatial, le nucléaire, l'industriel, l'hydrogène, par exemple, plus récemment. Et au sein des Big Boss, on est plutôt sur les fonctions d'entreprise, donc la fonction digitale, la fonction marketing, communication, data, IT, cybersécurité.
D'accord. Et vous êtes combien dans le groupe maintenant ?
Alors aujourd'hui, c'est un peu plus de 110 personnes.
D'accord. Tous en poste sur Paris ?
Tous en poste sur Rennes. On a quelques personnes en Israël pour des approches internationales, pour avoir des gens qui sont qui ont vraiment la langue pure américaine ou russe ou hollandaise. Voilà, donc on a identifié Israël comme un melting pot international et donc pour adresser des sujets mondiaux ou des sujets dans des zones internationales.
D'accord. J'ai pu constater, Hervé, que vous aviez un prochain événement du 9 au 11 juin, me semble-t-il, qui se passe au Club Med d'Opio, dans les Alpes-Maritimes. En quoi ça consiste ?
Alors, ce sont nos événements phares, hein, ce qu'on appelle les opus, donc Summer ou Winter Edition. Summer Edition, on a commencé en 2014, on est allé à Marrakech, on est allé en Grèce, on est allé aux Canaries. Là, plus récemment, donc on a décidé, avec le contexte RSE dans les grandes entreprises, de se concentrer sur le marché français, en fait, d'avoir une finalement un trajet RSE friendly en train. Donc, on a fret un TGV, on va faire Paris-Cannes en TGV, et effectivement, une demi-heure après, on va se retrouver dans l'arrière-pays cannois, donc dans les terres provençales, au sein du Club Med Opio. Donc on privatise entièrement le train, on privatise entièrement le village Club Med, et donc on va réunir à peu près 350 décideurs, 250 prestataires, et donc ils vont interagir ensemble, faire du business, et donc mûrir les réflexions, les approches, les besoins, les projets, en vue d'accélérer dans le digital. Le cœur de ces formats, c'est l'accélération digitale.
Ok, c'est un principe de speed meeting, c'est comment ça fonctionne ?
Exactement. En fait, dans le monde B2B, en général, l'acheteur et le vendeur se rencontraient dans des salons traditionnels, donc avec des exposants, des visiteurs. Sauf que c'était très quantitatif, et du coup, les décideurs, les vrais decision makers, abandonnaient en fait ces formats et envoyaient que des prescripteurs, des étudiants, des alternants, des chefs de projet, des directeurs de projet, mais plus vraiment les décideurs. Donc nous, on a pris le contre-pied en fait de cette logique bien avant le Covid, et on a décidé de filtrer en fait des décideurs selon des critères très précis de budget, de niveau hiérarchique dans l'entreprise, de maturité des projets, de taille de société, et donc en face d'avoir donc des prestataires qui savent répondre aux exigences et aux projets des décideurs. Donc on a accompagné finalement la course aux différentes thématiques. Il y a quelques années, on parlait beaucoup d'acquisition, puis on a parlé d'acquisition et de conversion, puis on a parlé d'acquisition, de conversion, de data, de content. On a voulu opposer la data à l'émotion. On s'est rendu compte que le métaverse pouvait être une réponse. Là, on est très intelligence artificielle. Donc on voit bien que finalement, dans ces événements, on va truster les sujets phares, les sujets évidents. Hein, quand on fait du digital, très vite, on pense à l'achat de trafic avec Google, mais on va travailler aussi tous les leviers pour maximiser l'efficacité digitale des entreprises.
D'accord, ok. On démarre par une question que je pose à tous mes invités. Hervé, comment tu en es arrivé au métier commercial, toi ?
Alors moi, très très tôt, déjà mes deux parents étaient commerciaux dans les assurances, donc je baigne dans cet univers commercial. Je me rappelle de ma maman, qui ne fait plus partie de ce monde, qui me disait très très tôt, toi, tu seras commercial. Je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans. Par contre, travaille bien à l'école, fais des études, parce que quand on est commercial, il y a deux possibilités. Soit on ne fait pas d'études, mais bon, on finira toujours par avoir un métier de commercial, mais plutôt dans des sphères qui sont pas très hautes. Je sais pas, elle me disait que je pourrais vendre des chaussures dans un magasin de chaussures. Alors que si je fais des études, eh bien, je pourrais accéder à des niveaux de vente assez élevés. Elle me parlait de vendre des usines clés en main. Et donc, effectivement, la vente, c'est un des seuls métiers où l'autodidacte peut tout à fait réussir, même très bien réussir. Mais si l'énergie commerciale est couplée d'une compréhension business et d'une culture économique, on peut aller chercher des sujets bien plus hauts. Je prends toujours l'exemple d'Airbus. C'est vrai que le vendeur chez Airbus, c'est avant tout un ingénieur pointu qui travaille sur des sujets très complexes, très techniques. Et pour autant, on parle de centaines de millions, voire milliards d'euros par commande. Donc, ce sont des enjeux qui sont stratégiques.
Ok. Et donc, tu as fait des études dans ce domaine, dans le domaine commercial ?
Tout à fait. Alors, j'ai fait un bac scientifique, un DUG d'économie, et puis après, je devais passer plusieurs écoles de commerce, et puis j'en ai trouvé une qui était assez sympa. C'était une école dédiée à la négociation commerciale. Donc vraiment, l'école supérieure de négociation commerciale. Je me rappelle, j'ai eu 20 à l'oral de négociation, et donc, je sentais bien que c'était vraiment ma culture, mon âme, et d'ailleurs l'école aussi était très content de m'avoir pour pouvoir insuffler cette énergie commerciale. Donc, j'ai toujours baigné dedans. Donc, effectivement, une fonction commerciale à Bac plus 5, c'est assez rare. Hein. On parle d'écoles de commerce, mais les écoles de commerce, elles font pas trop de commerce. Elles font plutôt du marketing, de la finance, de l'audit, de la stratégie. En général, c'est antinomique. Quand on a fait Bac plus 5, on a l'impression que commercial, c'est dégradant. On a plutôt envie d'aller dans des fonctions qu'ils considèrent comme nobles, comme le marketing ou l'audit. Mais en fait, moi, je considère qu'il n'y a rien de mieux que le commercial comme fonction noble.
Première question, Hervé, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon commercial ?
La détermination. En fait, un commercial, finalement, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui prend des claques et doit se relever. Alors, il prend des claques et des bisous, mais souvent, il se prend plus de claques que de bisous. Donc, si on n'a pas la détermination, l'énergie, la niaque, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, je pense que vraiment, la première qualité, c'est la détermination.
Ok. Et d'ailleurs, si on devait résumer la vente en un verbe, selon toi, quel serait-il ?
Je dirais séduire. Séduire, ça vient du latin seducere, amener à soi. Amener à soi la personne, c'est effectivement le convaincre du bien fondé, du produit ou de la solution qu'on veut lui présenter et qu'on veut lui vendre.
Ok, très belle définition. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver selon moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ?
C'est tout à fait vrai. On dit souvent que les gens du showbiz, les acteurs, etc., ont un plan B, que finalement, voilà, ils n'ont pas réussi dans leur vie personnelle et ils viennent se plonger dans des personnages fictifs ou autres. Alors, je dirais pas qu'on est jusque-là dans la fonction commerciale, mais c'est vrai que la fonction commerciale, c'est se prouver à soi-même en permanence. Donc, il y a un côté un peu infantilisant dans la fonction commerciale, parce qu'il faut se justifier chaque semaine, faire des reporting, gagner, réussir, des objectifs, etc. Donc en gros, voilà, pour moi, le commercial, c'est vraiment quelque chose d'atypique. C'est un état, c'est un art de vivre, c'est un état de fait. C'est pas simplement juste un métier.
Ah, j'adore l'art de vivre. Excellent. Tu organises un prochain événement sur la digitalisation, justement. Quelle est ta vision du métier commercial là en 2023 et dans les années à venir, notamment avec l'IA qui arrive et qui va révolutionner pas mal de choses?
Alors déjà, moi, je suis effaré de ce qu'a produit le Covid. Avant le Covid, on allait se rencontrer pour faire des affaires. Et puis pendant le Covid, on a fait des visios, puis on s'est rendu compte que les visios c'était pratique, ça faisait gagner du temps, etc. Donc on a maintenu. Moi j'ai une force commerciale, la moyenne d'âge elle doit être autour de 28 ans. Donc voilà, ils sont nés avec le Covid à peu près, et donc du coup ils veulent plus. Ils veulent plus se déplacer. Et en fait, c'est dramatique. J'en ai encore eu l'exemple. Là, je suis allé avec une commerciale la semaine dernière. On est allé se déplacer dans une agence. Déjà, l'agence a été contente de voir en vrai des commerciaux et pas juste un écran visio. Et puis, on a pu détecter un vrai besoin, un vrai budget qu'on n'aurait jamais détecté comme ça à l'aune d'une visio de 30 minutes. Donc déjà, je trouve que c'est dommage cette virtualisation de la relation commerciale. Ça c'est le premier sujet. Alors après l'intelligence artificielle, oui, c'est sûr que ça va automatiser un certain nombre de processus. Mais justement, ce qui va changer, enfin le jour où l'intelligence artificielle aura le relationnel commercial, bon, il va se passer encore quelques années ou peut-être quelques décennies. On pourra faire illusion. Un robot d'IA pourra analyser le persona qu'il a en face et puis peut-être faire une touche d'humour ou autre. Mais bon, quand même, IBM a mis longtemps avant de battre des champions d'échecs. Donc, je pense que l'IA mettra longtemps avant de battre les meilleurs commerciaux.
Ok. Donc, il y a encore un avenir du métier commercial, selon toi, effectivement. Et comment il va évoluer ?
Alors, on va segmenter plus les fonctions commerciales. C'est-à-dire qu'avant, le commercial, il faisait tout. Voilà, donc il faisait de la chasse, il faisait du closing, il faisait de l'élevage. Aujourd'hui, il va vraiment y avoir des gens qui font du gros marketing pour susciter des intérêts, des gens qui vont qualifier ces intérêts, des gens qui vont closer. Donc, on va en fait un peu tailoriser la force commerciale, l'approche commerciale, je pense.
Alors, c'est déjà pas mal le cas dans les dans des startups de la tech ou avec les SDR, les BDR, les account executives, enfin voilà.
Exactement.
Ok.
Je suis tout à fait d'accord.
Quels sont les fondamentaux, Hervé, selon toi, du métier commercial?
Alors, moi, je dis toujours qu'un commercial, ça doit avoir deux aptitudes et les deux aptitudes cumulées amènent la troisième. Alors, on dit en général que il faut qu'un commercial travaille, encore, qu'il travaille beaucoup, plus que la normale, plus que ses heures de travail, et donc, s'il travaille pas, il n'y arrivera pas. C'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut aussi qu'il ait du talent. Alors le talent, ça se travaille, ça se peaufine, donc c'est un sens commercial, c'est une intelligence de la situation, c'est de l'empathie. Et donc souvent on dit que il y a aussi de la chance. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est celui qui fait que travailler, le besogneux, d'accord, à force d'appeler, à force d'envoyer des emails, à force de convaincre, même s'il est pas talentueux, il tombe, il a un peu de chance, on va dire, et il arrive à décrocher un contrat. De l'autre côté, on a le talentueux, et le talentueux qui travaille pas, c'est la petite peste, parce que c'est celui qui arrive à 11h, qui se barre à 15h, qui passe deux coups de fil, qui discute avec tout le monde, et qui quand même, pendant ces deux coups de fil, il close. Bah, c'est la peste, celui-là faut le virer. C'est compliqué, hein, parce que c'est le talentueux, mais bon, il engraine tout le monde dans une absence de quantité de travail. Et donc, le besogneux qui a pas de talent, c'est dommage. Le talentueux qui travaille pas, c'est très dommage. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir des besogneux talentueux. Et forcément, le besogneux talentueux, c'est celui qui, derrière, aura la chance. Et en fait, ce sera pas de la chance, ce sera du travail et du talent.
Très rare à trouver, hein. J'en ai managé quelques-uns des commerciaux dans ma carrière professionnelle. Le besogneux talentueux, il est très rare à trouver, non? Qu'est-ce que tu dis?
C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, alors moi, je le suis. Et d'ailleurs, ça, c'est un point très important. Un entrepreneur qui n'a pas d'âme commerciale, s'il n'a pas un associé commercial, il va pas y arriver, parce que s'il n'a pas les codes, s'il n'a pas la légende, s'il sait pas comment pratiquer, il se fera avoir un peu comme une start-up où l'associé ou le fondateur n'est pas tech. S'il n'a pas un CTO qui est vraiment associé, motivé, bah, il se fera bananer par des jours de développement et autres. Donc en fait, à un moment donné, ça s'improvise pas. La fonction commerciale, soit on l'a, soit on l'a pas. Et quand on l'a pas, bah, il faut vite compenser, être en mode palliatif, peut-être monter au capital un associé qui aurait cette fibre-là et qui pourrait représenter cette partie-là, parce que c'est une partie essentielle dans la vie d'une entreprise.
Ok. D'ailleurs, quand tu recrutes un commercial, qu'est-ce qui peut te mettre en alerte chez ce commercial que tu dois recruter?
Eh bien, bon, la première, c'est s'il dénigre ses expériences précédentes, parce que forcément, ça donne pas envie de l'écouter après son expérience chez nous. C'est quand il a de multiples fréquences d'employeurs. Celui qui a fait 15 ans et qui a fait 9 boîtes en 15 ans, bah, tu te dis que quand même il a la bougeotte. Alors est-ce qu'il sort parce qu'il est mauvais? Est-ce que lui-même a envie de partir au moindre 2K euros de plus récupérés à la fin de l'année? Et donc du coup, je pense que la longévité et puis comment il vit et qu'il exprime ses expériences précédentes me donne plutôt des bonnes ondes. Et à l'inverse, quelqu'un qui aurait beaucoup trop d'expérience par rapport à son nombre d'années et qui dénigre ses expériences précédentes sont des red flags pour moi.
Ok. Les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, sont mises en avant sur tous les bâtiments. Je crois beaucoup aux valeurs des commerciaux. Quelles sont les valeurs que tu défends, toi, dans ton entreprise?
Alors, la bienveillance, parce qu'à un moment donné, des commerciaux qui rayent le parquet, qui speedent des comptes, etc., ça n'a pas de sens. D'ailleurs, même les plans de com sont orientés collectifs. Alors bien sûr, une partie est vraiment variabilisée individuellement, hein, 70, 75%, 80%, mais il y a 20% qui sont liés finalement à un collectif. Donc la bienveillance, effectivement, la résilience, on l'a vu avec le Covid, hein, nous on avait 30 événements à exécuter en 2020, et puis début mars, on nous demande de nous confiner au mars, et donc il a fallu être résilient, il a fallu sortir des événements digitalisés, il a fallu démontrer qu'on pouvait fonctionner avec des gens qui étaient tous au télétravail et autres. Donc en fait, c'était vraiment une approche de bienveillance, résilience et puis plaisir. À un moment donné, il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir dans son travail, il faut être passionné dans son travail, il faut aimer son travail, il faut aimer le produit qu'on vend, parce que sinon, quand on n'est pas convaincu, on n'est pas convaincant. Et donc voilà, donc si je devais donner comme ça trois valeurs, ce serait bienveillance, résilience et plaisir.
Ok.
On est loin du liberté, égalité, fraternité.
On en est loin. Mais c'est des valeurs à défendre qui sont intéressantes dans ce métier commercial pour redorer un peu l'image. Hein, comme tu le disais, les mercenaires comme ça qui passent de boîte en boîte, c'est pas vraiment des gens qu'on a envie qui. Enfin, c'est des gens qui ternissent un peu l'image de notre métier.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite, Hervé, et est-ce qu'elle existe ?
Alors, on peut toujours faire progresser une vente, mais déjà une vente parfaite, c'est celle qui aboutit. Même si moi j'ai des exemples très précis de prospects que je n'ai jamais signés, mais qui finalement, avec lesquels j'ai entretenu de très bonnes relations et du coup que j'ai signé bien plus tard dans d'autres univers, dans d'autres fonctions, dans d'autres métiers. Donc faut jamais insulter l'avenir. Déjà, ça c'est important. Et après, la vente parfaite, c'est celle où les deux sont heureux d'avoir conclu. Si on est face à une négociation intrépide où l'un a été à genoux par l'autre, on n'est pas dans une vente parfaite. Le but de la vente, c'est pas d'arnaquer l'autre. C'est de se dire que on a fait un deal fair, pertinent, gagnant pour tout le monde. Et donc c'est là où on tend vers la perfection de la vente.
Ok. C'est ce qu'on doit rechercher, c'est le Graal.
Exactement.
C'est ça. Est-ce qu'il y a une opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie ?
Une opportunité, toute ma carrière a été une opportunité en permanence. Hein. Moi, je suis pas resté très très longtemps entre deux jobs. Hein. Je sautais d'un job à un autre. En fait, j'ai peut-être eu une expérience de ma dernière expérience de salarié. J'étais directeur commercial d'une société qui s'appelle Common Stem. Maintenant, elle a été rachetée. Elle s'appelle Nextedia. Et en fait, c'était ma dernière expérience commerciale. J'avais moi-même un gros réseau commercial. J'animais des communautés sur LinkedIn. Et donc, je me rendais bien compte que j'étais arrivé à la fin d'un processus salarié qu'il fallait que je monte mon entreprise. Je savais pas du tout encore ce que j'allais faire, mais je voulais monter mon entreprise. Donc, je me suis créé ma propre opportunité. J'ai créé la société. Très vite, au début, j'ai fait de l'apport d'affaires. C'était simple, j'avais déjà un carnet d'adresse, une connaissance fonctionnelle. Et en fait, finalement, de l'apport d'affaires, j'ai tissé un format, un concept, une approche événementielle, alors que au bout du bout, l'enjeu, c'est de la mise en relation d'affaires. C'est de l'apport d'affaires entre un acheteur qui a besoin de trouver des solutions pertinentes et un vendeur qui veut matcher avec les besoins de cet acheteur. Donc finalement, le concept de base de ma société, qui était juste une logique un peu attentiste sur le devenir d'une future société, est devenu le cœur de mon activité.
D'accord. Et tu mesures, tu as des KPI sur les mises en relation, enfin sur les échanges de business qui se font au sein des événements que tu organises ?
Alors oui, d'ailleurs au tout début, j'avais même une rémunération à la performance. Donc en fait, les prestataires payaient un fixe pour participer à l'événement et ensuite un variable sur le deal qui était signé. Bon, au fur et à mesure, j'ai arrêté ce modèle parce que il était très contraignant. Pourquoi ? Parce que si les prestataires étaient bons, ils signaient, et puis s'ils étaient pas bons, ils signaient pas. Mais moi, je leur avais présenté le même décideur à l'arrivée. Donc du coup, j'avais une responsabilité trop forte sur une conversion qui n'était pas de mon fait. Donc au fur et à mesure, je suis reparti sur un modèle fixe traditionnel. Mais par contre, on mesure. Lorsqu'un décideur veut revenir, il doit nous dire avec qui il a signé et combien. On vérifie auprès des prestataires. Donc tout ça, ça nous donne un retour sur investissement. Alors on n'a pas une exhaustivité de toutes les réponses, mais les décideurs peuvent nous déclarer, ou doivent nous déclarer lorsqu'ils veulent revenir. Les prestataires peuvent nous déclarer, et donc ça nous donne quand même des bonnes visions d'un panier moyen, du chiffre d'affaires qu'on fait par événement, et donc du ROI potentiel auquel peut prétendre un prestataire.
D'accord. Et c'est vous qui allez les recruter à la fois tous les participants ?
Alors moi j'ai 25 commerciaux, je parle sur l'activité les Big Boss, hein, qui est l'activité phare événementielle. J'en ai la moitié qui prospecte des futurs sponsors, donc avec une approche chiffre d'affaires, d'accord ? Et l'autre moitié qui détecte des projets à déployer auprès de décideurs, des porteurs de projets, et qui donc vont qualifier ces décideurs qui sont 100% invités. Hein. Ce qui est important dans le principe, c'est que le décideur est entièrement invité. Donc en fait, il faut qu'ils comprennent, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, qu'ils sont invités à dépenser leur budget, à dépenser leur projet, et non pas juste à boire du champagne aux frais de la princesse.
Ok, donc ils savent pourquoi ils viennent. Ils savent qu'ils viennent pour trouver un prestataire qui va leur proposer quelque chose dont ils ont besoin, c'est ça ?
Exactement.
Ok. On va parler un petit peu motivation commerciale, tu le disais, hein, si le commercial n'est pas convaincu, il n'est pas convaincant. Ouais. Est-ce que tu as des astuces pour maintenir la motivation de tes équipes au top ?
Alors, j'ai mis en place une règle commerciale depuis maintenant 3-4 ans, depuis une série télé en fait, qui s'appelle « Handmaid's Tale ». La série s'appelait « La servante écarlate ». J'ai mes directeurs commerciaux à côté là qui rigolent, qui m'entendent. En fait, dans « La servante écarlate », »,« Handmaid's Tale », on est dans la république de Gilead. Et donc, j'ai donc une slide Gilead, qui est donc présentée et remontée par les commerciaux chaque semaine. Les Gilead, c'est quoi ? C'est les deals qu'ils vont signer dans la semaine, donc ceux pour lesquels ils mettraient leur doigt ou leur main. Eh bien, il y a des règles très très précises, très dures, très sévères. On y voit la charia, on y voit le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en gros, dès que quelqu'un fait une connerie, on peut lui couper un doigt, voire le pendre. Donc moi, je ne coupe des doigts à aucun de mes commerciaux. En revanche, voilà, toutes les semaines, ils doivent déclarer les deals qu'ils vont signer dans la semaine. Et donc, il y a une logique un peu égocentrée, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont déclaré un deal, de 20 000 euros, il faut qu'ils le tiennent. Et puis, à la fin de la semaine, on ira constater si le deal a été converti, s'il est simplement reporté, ce qui arrive, ou s'il est perdu. Et le principe, c'est que si un deal est perdu, eh bien, à lui d'aller se régénérer dans la semaine un deal à accélérer pour compenser, parce que s'il a dit qu'il allait faire 20 000 euros et qu'il ne les fait pas, il faut qu'il aille les chercher par ailleurs. Donc tout ça, ça garde une motivation, une énergie et aussi une prévisibilité. C'est-à-dire que si j'ai 12 commerciaux qui déclarent chacun un deal de 20 000 euros, c'est pas forcément ce deal-là qui va signer. Mais bon, si le deal rip ou est perdu, ils vont pouvoir effectivement peut-être accélérer le deal suivant pour aller chercher le chiffre qu'ils avaient promis. Donc on est dans la logique d'un forecast un peu gamifié où chaque semaine, les commerciaux vont à peu près faire le chiffre qu'ils avaient énoncé, pas forcément avec toutes les boîtes qu'ils avaient déclarées. Hein, je dis n'importe quoi, si sur une semaine ils déclarent 250 000 euros de Gilead, ils vont signer à peu près 150 000, mais ils vont quand même signer 100 000 euros par ailleurs, donc ils vont quand même accélérer des deals. Et donc globalement, il y a une certaine fiabilité entre le montant donné en Gilead et la réalité de la semaine.
D'accord. Et ça insuffle une bonne énergie dans l'équipe.
Ben oui, parce qu'on a toujours envie, de déclarer des Gilead. On a toujours envie de c'est comme finalement certains le voient comme un coup de poker. C'est-à-dire, ce deal-là, je le mets en Gilead, mais je suis pas sûr de le signer. attention, danger. Ou à l'inverse, bah tiens, ça fait deux semaines que je le travaille au corps, j'ai un accord écrit, j'ai des bonnes ondes, c'est au service juridique ou administratif. Donc là, on est quand même proche de la réalité. D'ailleurs, on a certains commerciaux qui sont plus, on va dire, qui prennent des risques. En anglais, prendre un risque, c'est take a chance. Donc voilà, ils prennent une chance ou un risque d'aller déclarer un Gilead qui n'en est pas encore à eux, d'avoir le talent d'accélérer le deal dans les heures ou jours qui passent de la semaine.
D'accord, ok, excellent. Une belle source d'objectivation et de motivation pour les équipes. Top. Quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de progresser ?
Pour moi, c'est vraiment la période Covid a été très très particulière. C'est pas un échec, c'est plus une impossibilité de faire, une interdiction de faire. Et de là, bah, on a déployé des solutions digitales qu'on a d'ailleurs poursuivies. Hein. Maintenant, on a des événements physiques et une communauté qu'on peut adresser à travers des visio business, donc 365 en digital. Et donc voilà, on a beaucoup appris et finalement c'est une ligne qui se développe très bien et qui est un complément à nos activités en présentiel.
Ok, d'accord. Et quelle est la leçon que tu as apprise dans ton parcours commercial qui t'a le plus inspiré? Qu'est-ce que tu retiens, en fait, qui t'a vraiment motivé et inspiré dans ton parcours commercial ?
Bah, je pense que la fonction commerciale, c'est une fonction très exigeante. Et donc, il faut être très exigeant avec soi-même, déjà, dans un premier temps. Finalement, le commercial, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Hein. C'est du relationnel, c'est de l'intelligence, c'est du marketing, c'est de l'énergie. Donc en fait, moi, j'ai toujours eu cette âme commerciale. Et aujourd'hui, la société a beaucoup grandi et il faut garder cette âme commerciale. Il faut que les commerciaux aient cette même exigence, cette même détermination. Je passe mon temps à regarder des choses que je devrais pas regarder, mais qui nécessitent une petite couche supplémentaire d'âme commerciale, une petite couche supplémentaire d'âme marketing qui vient booster la conversion, booster la conviction et donc booster la finalisation d'un deal.
Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ?
C'est d'arrêter de voir petit. Je me rappelle tout début de l'apport d'affaires en 2011, je traitais des tout petits deals. Donc moi, j'étais payé à peu près 10% du chiffre d'affaires que je générais et je me rappelle de quelqu'un qui m'avait confié un sujet à 20 000 euros. Bon, ça faisait 2 000 euros, ça prenait autant de temps qu'un deal à 50 000, 100 000, 200 000 et donc j'ai bien dit, mais Hervé, arrête, refuse ces petits sujets et va chercher des sujets plus gros. Pas négliger non plus, pas que dans du trop gros, mais effectivement, faut pas s'épuiser à la tâche sur des petits sujets.
Voir grand. Ok. Mmh. Et toi, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent ?
Cette histoire de travail et de talent, c'est toujours un peu le même principe. C'est-à-dire que il y a des gens qui veulent faire commercial par dépit. Parce que bon, bah, ils trouvent plus facilement un poste dans le commercial. Sauf qu'en fait, non, le commercial, c'est pas une solution de rechange. Le commercial, c'est vraiment quelque chose de dur. Hein. C'est dur le commercial. C'est très plaisant, mais c'est dur. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le commercial, il y a deux métiers où le commercial gagne souvent plus que son patron. C'est trader et commercial. Le meilleur trader de la Société Générale, il gagne bien plus que son patron et d'ailleurs bien plus que le PDG de la Société Générale. Et le meilleur commercial d'une société gagne bien plus que son manager et souvent le plus gros salaire de la société.
Ok, donc toujours, on revient sur le mix parfait de la besogne et du talent.
Exactement.
Je suis persuadé qu'il y a autant de façons de vendre que de commerciaux, quelle que soit d'ailleurs la formation qu'ils peuvent recevoir dans les entreprises. Et je suis persuadé aussi qu'on achète à un commercial pour quelque chose de particulier. Et c'est ma question au fil rouge du podcast, c'est quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée ?
Alors, ça a toujours été un débat, je m'en rappelle, avec mes managers, lorsque j'étais moi-même manager commercial, directeur commercial ou autre, c'est est-ce qu'il vaut mieux prendre un commercial qui sait vendre ou un commercial qui maîtrise son produit ? Dans l'informatique, il y avait des ingénieurs technico-commerciaux qui venaient du monde plutôt de la technique, ou alors des gens qui venaient du monde du photocopieur. Donc, en fait, il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui préfèrent le vendeur de photocopieur parce que à lui d'aller apprendre le produit. Et puis, il y a des gens qui préfèrent plutôt l'expertise produit à lui d'apprendre les méthodes commerciales. Là, en fait, le meilleur commercial, c'est celui qui a les deux. C'est celui qui est fort commercialement et qui maîtrise parfaitement son produit. Celui qui maîtrise très bien son produit, mais va louper toutes les approches relationnelles commerciales, il va pas y arriver. Celui qui est très bon relationnel commercial, mais qui est creux dès qu'il faut parler du produit, ça marche pas non plus. Donc vraiment, le meilleur commercial, c'est celui qui a les deux. Et c'est rare. C'est-à-dire que, en fait, il faut avoir l'énergie commerciale et la connaissance produit, il faut avoir la besogne et le talent. Donc, vous voyez que quand on cumule, en fait, c'est pas évident d'avoir des bons commerciaux de les garder, de les choyer, qu'ils soient heureux, etc.
Ça fait du sacré écrémage à la fin.
Ouais, exactement.
C'est vrai qu'on n'en croise pas. Enfin, souvent, dans les boîtes, j'ai pu observer que... t'avais, 10% des commerciaux qui généraient quasiment 70% du chiffre d'affaires.
Non, on n'est pas là, mais oui, moi, j'ai 11 commerciaux, allez, 11 qui ont des approches commerciales, et je pense que 75% du business va se faire sur les 5 premiers. Donc, oui, on n'est pas dans du Pareto non plus, mais c'est pas 20% des commerciaux qui font 80% du chiffre. Mais bon, de fait, y a des commerciaux plus historiques, plus pertinents, d'autres qui viennent d'arriver, d'autres qui sont plus faibles.
Voilà. Ok. Un aspect sur lequel moi j'avais beaucoup de lacunes lors de mon démarrage d'activité dans le métier commercial, c'était l'organisation. J'ai mis beaucoup d'années avant de bien m'organiser. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue-là, de l'organisation ? Est-ce que y a pour toi une bonne organisation commerciale qui existe ?
En fait, on parlait tout à l'heure de la taylorisation avec effectivement des commerciaux sédentaires qui décrochent des intérêts, des commerciaux qui vont poursuivre et puis des account managers. Je dirais que déjà il faut vraiment s'adapter au produit. Est-ce que le produit est complexe ou non ? Faut s'adapter aussi à l'expertise des commerciaux. Est-ce que c'est pas stupide de faire à un commercial des fonctions de suivi de projet post-vente ? Par exemple, chez nous, on sépare en fait les commerciaux qui chassent et les customer success managers qui suivent. D'accord. Même si le commercial garde la relation clientèle tout au long de l'année, c'est quand même plutôt les équipes CSM qui vont accompagner les clients tout au long de leur parcours événementiel sur les approches de matching, sur la préparation logistique, sur la façon dont ils vont se présenter, etc. Et donc, c'est mieux de séparer, même si l'équipe CSM a quand même une culture, une approche et même un petit quota commercial. Dans les faits, pour moi, il est préférable qu'un commercial se concentre sur les sujets commerciaux et que un chef de projet opérationnel se concentre sur le suivi opérationnel.
Ok, donc c'est bien séparer les deux entre les chasseurs et les éleveurs.
Alors, c'est pas tout à fait chasse-élevage, hein, parce que pour moi, le commercial qui chasse, c'est celui qui va élever son client. C'est plutôt, on va dire, l'assistance commerciale, le suivi commercial, tout ce qui est chronophage. Si c'est le commercial qui le fait, ça lui prend trop de son temps et il a pas le temps de bien gérer ses clients et d'aller en chercher des nouveaux.
Ok. Je pense que c'est une approche intéressante, alors que effectivement, dans certaines entreprises, il y a vraiment la séparation entre la chasse et l'élevage. Mais toi, c'est différent. C'est vraiment l'approche du produit en tant que tel que tu remets à d'autres équipes. Effectivement, tout ce qui prend du temps à du commercial, à gérer les problèmes des clients, etc. Voilà. Ok.
C'est ça. Parce qu'en fait, l'élevage, faut pas se leurrer, ça reste de la chasse. Maintenant, effectivement, il y a des, parce que la chasse, c'est plus dur. Donc, si on se dit, bah, tiens, toi, tu fais de la chasse, toi, tu fais de l'élevage, bon, bah, celui qui fait de l'élevage, finalement, il a plus de chances d'y arriver. Donc, on va dire que chez moi, les éleveurs, c'est ceux qui ont chassé et qui élèvent leurs clients.
D'accord.
Donc, du coup, le chasseur, s'il chasse, plus il aura de compte, et plus il aura de compte, plus il pourra élever.
Ok. Il se concentre uniquement sur le commerce. Excellent. Oui. Ça facilite Exactement. Les choses pour tout le monde. Qu'est-ce que tu crois vrai, Hervé, et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde sur le domaine commercial ?
Ben, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a tous les outils pour faire des visios qu'il faut arrêter d'aller voir les clients en vrai. Yes. C'est une grosse erreur. C'est un mauvais calcul. Parce que oui, sur un rendez-vous, on peut perdre 2 heures de trajet, voire 5 heures, 6 heures si on est au fin fond de la Provence. Mais on gagne aussi l'intimité d'un client. On gagne aussi la différence, puisque comme tout le monde a l'impression qu'on n'a plus besoin de se voir, on fait la différence. Or, être commercial, c'est en permanence faire la différence.
Excellent. Un bon message. Retournez voir vos clients en physique. Allez voir vos clients en physique pour faire la différence. Tout à fait. J'y crois beaucoup aussi à ça, moi. D'ailleurs, je mets toujours un point d'honneur à continuer à aller voir mes clients en physique pour créer la confiance. Il n'y a rien de mieux pour créer une bonne confiance. Est-ce que tu as une punchline? Est-ce que tu mets en place comme ça une espèce de mantra, une punchline qui...
Ouais. Alors, la baseline des big boss, c'est business as it should be. C'est très provocateur, le business tel qu'il devrait être. Ça vient d'un slogan du Club Med qui était life as it should be, traduit en français comme le bonheur si je veux. En fait, le principe, c'est que je pense qu'on se trompe dans la fonction commerciale. On va d'abord travailler les aspects fonctionnels, techniques, pricing, on va dire rationnels d'un deal. Et puis au dernier moment, on va en gros réfléchir à l'approche relationnelle humaine. Moi, je fais l'inverse. Dans mes événements, on va d'abord sympathiser avec un humain et ensuite voir si ça peut matcher d'un point de vue business. Donc, en gros, pour moi, finalement, le commercial, c'est la rencontre des deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est la partie cartésienne, raisonnable, raisonnée, mathématique. Et le cerveau droit, c'est la partie émotionnelle, affective, sentimentale, instinctive. Et donc, le commercial, c'est quand on a réussi à frapper et à toucher les deux. Et souvent, on s'arrête à la partie rationnelle, ou on démarre par la partie rationnelle et on finit par la partie humaine, alors que moi, je reste convaincu qu'il faut démarrer par la partie humaine et ensuite finir par les aspects pricing, fonctionnel, technique, rationnel, etc.
Ok. Très, très, très bonne, belle approche. Ça me fait penser un petit peu donc, c'est ton slogan, c'est.
Tel business que de... as it should
voilà,
be.
Le business devrait être tel qu'il est, c'est ça ?
Bah, le business tel qu'il devrait être.
Tel qu'il devrait être. Ok.
C'est celui que moi je pense comme résolument humain et résolument relationnel avant d'être sur des sujets plus pratiques, fonctionnels, techniques, pricing, financiers, etc.
Ok, le business tel qu'il devrait être. Ça fait une résonance, je sais pas, je pense à Nietzsche, deviens ce que tu es, tu vois, ça me fait penser un peu à ça.
Tout à fait.
Ok. Hervé, quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial?
Eh bien, déjà, je me dirais, bah, effectivement, ouais, petit, tu pensais que t'allais être commercial, bah, tu l'as été. Moi, je savais que j'avais aussi créé ma boîte et j'ai travaillé beaucoup chez les autres pour observer, pour comprendre. J'ai une anecdote la plus marrante que j'ai eu à vivre, enfin la plus marrante maintenant, mais pas sur place. La plus marrante que j'ai eu à vivre quand je pilotais une équipe commerciale qui allait de la Suisse à la Russie. Donc moi, j'étais basé à Genève et puis j'avais un bureau à Genève, à Zurich, à Hambourg, à Munich et puis j'avais des équipes que je pouvais envoyer en Russie ou dans les pays de l'Est. Et puis un jour, j'ai le DAF qui m'appelle. Donc il m'envoie un email et qui me dit « Hervé, est-ce que c'est toi qui as signé cette note de frais d'un de tes commerciaux sur un de tes bureaux en Allemagne ?» Je dis, bah, écoute, oui, c'est effectivement un de mes commerciaux, c'est dans ma juridiction. Par contre, effectivement, tu fais bien de me dire, c'est ma signature mal imitée. Et effectivement, c'est un commercial qui avait une note de frais à 8 300 €. D'accord. Il y avait 400 € répartis dans des restos, des trucs, bon, des trucs classiques, hein. Mais il y avait une ligne à 7 900 €. Bon, alors je regarde la date. C'était la veille d'un très gros deal que ce commercial a signé, de l'ordre de 400 000 €. Bon, 7 900 €, 400 000 €, ça fait 2%. Bon, je creuse un peu. Barre à pute à Hambourg. Et donc, effectivement, il est allé finir de convaincre le client en bah voilà, en offrant comme ça des danses, des trucs. En France, c'est illégal. On peut juste faire des petites danses. En Allemagne, visiblement, on peut aller jusqu'au bout. Et donc voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe là, il y a toute la boîte qui veut virer ce mec. C'est mon meilleur commercial. Il s'appelait Holger. Et sauf qu'il fait un faux. Moi, il m'aurait appelé 3 heures avant pour me dire, Hervé, te rappelle, je t'avais parlé de ces clients, bon, pour les finir, il faut que je joue un peu avec eux, machin, je pense que, est-ce que tu peux me donner un budget, truc, bon, j'aurais peut-être donné un petit budget, peut-être pas 7 900 €, bon. Finalement, non seulement il l'a fait en douce, et en plus, il a fait un faux. C'est-à-dire qu'il a voulu passer, si le DAF, il s'était pas posé la question, bon, il aurait dit, ouais, bon, note de frais élevée, il aurait passé le truc. En fait, le DAF m'a tout de suite dédouané et moi je voulais pas le virer. Je voulais le sanctionner, mais je voulais pas le virer. Et tout le monde voulait le virer, surtout qu'en Allemagne, c'est très compliqué de virer des commerciaux, encore plus compliqué qu'en France. Et donc, on pouvait pas laisser passer le truc et puis le virer un an et demi après sur ce motif-là. Soit on le virait tout de suite pour ce motif-là, soit on pouvait pas s'en servir plus tard. Donc, en gros, très clairement. Lui, il a finalement dépensé 2% pour aller chercher le deal. Moi, si j'avais dû payer un apporteur d'affaires, j'aurais payé. Mais bon, voilà, c'est la moralité dans les affaires. Est-ce qu'il faut payer une prostituée à un client pour arracher une commande? Est-ce qu'il faut tricher une note de frais pour essayer de que ça se voit pas? Voilà.
Et donc, du coup, il a été viré, ce commercial?
Du coup, on lui a demandé, sous 48 heures, de rembourser les 7 900 €, alors que sa com à lui, elle était un peu en dessous, d'accord? Et ça, c'était pour éviter qu'il ait une plainte pénale. Et ensuite, on l'a licencié.
Ok. Bon, cela dit, ce genre de mode de fonctionnement, ça existe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes, hein. Notamment dans l'agroalimentaire, hein, pour convaincre des responsables d'achat de certains grands groupes. J'ai pu l'observer dans beaucoup, beaucoup de boîtes.
Hein. D'accord. Ouais. Et c'est marrant parce que quand, au début de ta phrase, je pensais que tu allais dire bon, ça se fait de moins en moins. En fait, tu racontes que.
Alors, je pense que ça se fait de moins en moins, effectivement. Mais il y a certaines années, dans les années 90-2000, ça se faisait, ça se pratiquait pratiquement, enfin, bon, souvent, on va dire, souvent.
Voilà. Moi, cette anecdote, elle date de 2009, je pense. Ouais. 2009-2010. Voilà. 2009.
Depuis 2010, c'est un peu moins. Un peu moins, les gens sont...
Voilà. Donc,
et je te parle pas des cadeaux aux acheteurs aussi. Hein. D'autres cadeaux aux acheteurs.
Ou même des labos pharmaceutiques qui envoyaient les médecins aux Seychelles avec femmes et enfants, etc. Quoi.
Voilà. On va finir cet échange sur quelque chose qui me tient à cœur au niveau des commerciaux, c'est parler des croyances. Et je reste persuadé que de toute façon le commercial il a un plafond de verre qui est enfermé entre deux croyances, entre ses croyances aidantes et ses croyances limitantes. Et donc ma question par rapport à ça, c'est quelle est selon toi la croyance limitante la plus fréquente que tu trouves chez les commerciaux, et quelle est selon toi la croyance aidante la meilleure pour faire du business?
La croyance limitante, c'est penser ne pas être capable d'aller, par exemple, adresser un BG et d'aller, aller plus haut dans la taille d'un deal ou dans le niveau des interlocuteurs. Et la croyance aidante, c'est plutôt l'inverse, c'est c'est en gros, c'est d'y aller, quoi. On est dans un cocktail, on a identifié un prospect, on y va, et donc finalement de foncer sans prendre garde aux conséquences, ou de savoir que qu'on peut se prendre, comme je disais au début, une claque ou un bisou, mais en gros d'y aller avec force, détermination, énergie, respect. Donc voilà, donc la croyance aidante, c'est, je dirais, l'énergie qu'on peut déployer, et la force limitante, la croyance limitante, c'est de se dire qu'on peut pas aller plus haut, qu'on peut pas, qu'on se cantonne à des fonctions ou à des tailles d'entreprise qui seraient limitées.
Ok. Parfait. Bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Hervé. Je te remercie pour ce partage et tous ces conseils que tu as pu distiller. Mais c'est pas tout à fait fini. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, et dans toutes les émissions sportives, à la fin, il y a toujours les meilleures actions, un top 5. Ici, c'est 5 questions. L'objectif, c'est que tu puisses répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt à te prêter à cet exercice ?
Alors, avant, je veux savoir de quelle discipline sportive on parle dans ton parcours à toi.
Ah, j'ai fait du basket à haut niveau.
D'accord. Ok. Bon, sympa.
Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
À vaincre son péril, on triomphe sans gloire.
Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
Je dirais lire la presse économique tous les jours.
Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
Ne pas se considérer au top et toujours apprendre, toujours comprendre, toujours progresser.
Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
Quel est ton panier moyen quand tu signes un deal ?
Une croyance limitante que tu as su briser.
Eh bien, le fait d'industrialiser un processus qui pouvait rester au stade d'artisan.
Avant de se dire au revoir, Hervé, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs ?
Ouais, Flavien Charot. C'est le DG associé de Wellpack. C'est un métier pas évident, Wellpack. D'ailleurs, ils ont fait plein de métiers différents. Il y a 20 ans, ils faisaient des produits électroménagers en leasing, quelques euros par mois. Et puis après, ils ont eu un problème avec une compagnie d'assurance ou avec une réglementation. Donc ils ont fait plein de métiers pendant 20-25 ans. Là, ils ont trouvé un métier qui leur correspond. Et le personnage a une âme commerciale très très forte, une approche relationnelle très forte. Et c'est ça que je voulais relever en le citant.
Enfin, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi ?
Sur LinkedIn, Hervé Bloch, fondateur de la marque Les Big Boss sur LinkedIn. Je vais raconter une dernière anecdote un peu marrante sur la fonction commerciale. Pour conclure, un jour j'étais exposant dans un salon, donc il y a à peu près 15 ans, et je donne ma carte de visite à un visiteur à qui je venais de présenter le pitch. Et il hallucine. Tout d'un coup, il me donne sa carte de visite. Donc, sur ma carte de visite, il y a écrit Hervé Bloch. Et sur sa carte de visite, il y a écrit Hervé Bloch aussi. Donc, on se rend compte qu'on est homonyme. Et là, il réagit, il comprend, et il me dit « Oh, je te déteste ». Je sais pas, pourquoi tu me détestes ? Parce que quand je tape Hervé Bloch sur Google, c'est toujours toi, c'est jamais moi. Alors, effectivement, moi, je passe mon temps à faire des interviews, des podcasts et autres. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir cultiver son personal branding et non pas son personal branding. Et donc, lui, il n'avait pas du tout cultivé. Et en fait, je lui avais piqué son image numérique.
Excellent. Donc, finalement, on a juste à te googliser, on tape Hervé Bloch sur Google et on aura tous les liens qui vont bien.
C'est ça. Et pas les siens, et ce sera souvent les miens. Mais le plus simple, c'est sur LinkedIn.
Ok. Je te remercie, Hervé, pour cet échange.
Ok, très bien.
Bonne journée, à bientôt.
Merci à toi.
Au revoir.
Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.